Bonjour Olivier Liron, vous publiez votre premier roman Danse d'atomes d'or chez Alma Éditeur. Et nous aurons avec vous aujourd'hui Anne Parsin.
Au téléphone.
Bonjour, merci.
Le vent balayait devant moi une bouillie de détritus, de fientes, d'oiseaux, de fleurs mortes. Je pressais le pas sur le trottoir illuminé de loin en loin par la lumière orange des phares ou l'éclat blanc et froid des réverbères. Un problème technique dans l'autobus Gare du Nord, Port d'Orléans m'avait fait arriver avec presque une heure de retard. Je montais en hâte les quatre étages de chez THMTN et LWHTN.
Tashmaton et Love Washington.
Ah ouais, mais ça, je ne sais pas parler les langues étrangères. Vous avez reconnu votre texte, donc. Hein.
C'est ça, merci. C'est difficile de prononcer le nom des deux personnages du début. Mais ensuite, les noms, je vous rassure, sont tout à fait intelligibles.
Oui, parce que comme par hasard, ils s'appellent Paul et Virginie.
Voilà, ils redeviennent en fait leur vrai prénom un petit peu plus tard dans le texte, dans le chapitre.
Alors, comment vous est venue l'envie d'écrire ? À quel moment ce roman est né ?
Il est né très exactement à la suite d'un voyage que je faisais avec un ami en Normandie. Un voyage assez échevelé, comme parfois on a envie d'aller voir la mer, d'aller voir les vagues et parler aux galets. Et je suis monté sur une falaise, c'est ce que je raconte dans une petite postface qui est dans le roman. Je suis monté sur une falaise et à un moment, j'étais vraiment très haut sur la falaise et je me suis dit qu'il fallait que je redescende, sinon j'allais vraiment tomber. Et au moment où je pensais ça, un petit carnet orange est tombé de ma poche et ce petit carnet était un peu plus bas sur la falaise. J'ai décidé de redescendre pour récupérer ce carnet. Et dans ce carnet, il y avait les premières lignes de ce qui allait devenir ce roman qui parle d'amour et d'absence et de séparation.
L'envie d'écrire, vous n'avez jamais démangé avant ?
Si, j'écrivais un petit peu déjà pour le théâtre, mais c'est la première fois que j'écrivais un roman. J'écrivais vraiment une histoire romanesque et construite comme telle.
Vous avez écrit des scénarios, vous êtes acteur, on vous a remarqué dans le film de Grégoire Le Prince Ringuet, La Forêt des Quinconces. Pourquoi passer au roman d'un coup ?
En fait, l'écriture chez moi était première et c'est toujours été une façon d'essayer de prendre corps ou d'incarner des choses à travers l'écriture. Effectivement, mon ambition est de devenir danseur. Enfin, j'ai toujours rêvé de devenir danseur. Donc j'essaye de créer aussi des choses pour le théâtre et où le corps évidemment de l'acteur est très présent. Mais moi c'est toujours l'écriture qui m'a accompagné, c'est toujours la poésie surtout, les textes en fait qui m'ont permis dans la vie de surmonter presque tout et donc ce roman est aussi une histoire d'amour autour de la poésie en fait, de la poésie et de la danse qui vont un petit peu de pair, je crois.
Vous parler de votre amour de la danse et donc du corps, c'est quoi le corps d'un écrivain c'est quoi la différence pour un écrivain en termes de corps par exemple, comment vous vous êtes senti en termes de posture?
Et ce serait intéressant de demander à plusieurs écrivains comment ils écrivent, enfin quel est le rapport à leur corps pendant l'écriture. En tout cas, je crois que il y a quelque chose dans le rythme, dans la structure des phrases, de l'histoire, de personnages, de tout. Il y avait en moi l'envie de faire quelque chose comme d'une chorégraphie ou d'une danse, c'est-à-dire de créer un mouvement. Peut-être que des fois ça marche, d'autres fois moins, je sais pas. En tout cas, l'envie était là d'essayer d'emporter ces deux personnages, donc cette histoire qui gravite autour de deux personnages, donc le narrateur, et la jeune femme qui s'appelle Lorraine et qui est acrobate dans un cirque. Et cette femme qui va naître une histoire entre eux avec les premiers mois d'ivresse. Et puis au bout de quelques mois, cette jeune femme disparaît. Et donc le narrateur va chercher à la retrouver en fait par tous les moyens. Et il va entamer un voyage d'hiver j'en dis pas plus, mais il va partir à sa recherche.
Votre livre est placé sous un patronage, le mot est vilain, mais sous l'hospice de Pina Bausch, avec cette phrase « Dansez, sinon nous sommes perdus ». Vous le croyez vraiment, ça ?
Ah oui, oui, c'est une phrase de Pina Bausch qu'on lui prête, en tout cas, et qui est très belle, je trouve. Oui, je crois que moi, j'avais envie de, de placer ce roman sous le signe de la danse et sous le signe de une certaine légèreté.
C'est la langue que vous faites danser d'abord et avant tout, c'est parce qu'on voit bien, vous jouez beaucoup dans votre livre, vous jouez aussi avec la littérature. Vous avez fait Normal Sup, si on ne le savait pas, en le lisant, on sent qu'il y a beaucoup de... D'ailleurs, les personnages qui s'appellent Paul et Virginie, il y a un moment où vous faites une sorte de remix du mythe d'Orphée, il y a beaucoup de choses comme ça, on sent que vous êtes habité par tout ça, c'est volontaire
ça ? Oui, c'est ça, je dois être hanté par tout ça. Oui, il y a certainement des références, mais enfin, je crois qu'elles sont toujours sur un mode très pas sérieux, enfin, assez léger, assez décalé.
Est-ce que le premier roman, on le voit d'ailleurs en tendance, généralement quand on en lit beaucoup, le premier roman c'est toujours un peu un hommage à ceux en fait qui nous ont fait rêver ? Pour vous, c'est toujours... là, vous allez pouvoir passer au second, donc vous allez peut-être trouver vraiment votre voie, mais...
Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Il y a sûrement beaucoup de figures, beaucoup d'auteurs aussi qui viennent un petit peu hanter l'écriture de ce texte. Il y a beaucoup de poètes sûrement qui sont un peu entre les lignes. Il y a Henri Michaud, il y a Fernando Pessoa, il y a sûrement des gens qui sont un petit peu... Cortazar aussi, il y a sûrement des figures qui sont un petit peu derrière le texte. Mais moi, ce roman, je n'ai pas voulu l'écrire du tout comme un hommage. C'était plutôt l'idée, au contraire, de raconter quelque chose de très simple, largement autobiographique, et justement de couper les ponts avec... une volonté de rendre hommage et d'écrire comme, de s'inspirer de modèles. Donc, c'était plutôt l'idée de retourner à quelque chose de très simple et de très naïf aussi, d'assumer le côté très naïf de l'histoire, de l'histoire d'amour en fait.
Bonjour Anne Persin, vous êtes avec nous depuis votre est où vous habitez, je crois, parce que tous les écrivains ne sont pas à Saint-Germain-des-Prés,
oui.
C'est ça ? Allô ? Vous nous
Absolument.
Entendez ?
Oui, je suis bien là. Oui,
bonjour Anne.
Là. Oui.
Vous-même, alors, quels sont vos souvenirs de premier roman quand vous entendez un jeune auteur comme Olivier Lira, j'ai oublié son nom, Olivier
Liron.
Liron, voilà, pas Lira, mais Liron. J'avais fait une faute de conjugaison. Pardon. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Écoutez, moi, ça fait déjà 10 ans mon premier roman publié. En 2006, en l'écoutant, j'ai l'impression qu'il a, il a vraiment beaucoup de chance parce que, en ce qui me concerne, c'était une publication, une première publication après déjà 10 années avant d'écriture et d'un succès et de refus. Je pense que le premier roman, enfin, il y a premier roman et premier roman, il y a aussi ceux qui arrivent comme un petit miracle. Parce qu'on a sûrement beaucoup médité et qu'on mérite cette première publication et puis parfois c'est très long à venir donc je pense qu'on peut le vivre de façon différente suivant la manière dont la chose nous est tombée dessus.
Mais vous, pendant ce temps-là, vous publiez des livres pour adolescents, donc c'était pas non plus un désert pour votre vie.
Moi quand je parle de premier roman, pour moi c'est mon premier, c'est-à-dire que pour moi le premier roman c'est 2006, c'est Point de côté, c'est un roman pour adolescents et ce qui a été considéré comme mon premier roman, c'est mon premier roman adulte 3 ans plus tard, mais pour moi c'est bidon quoi. Je veux dire que premier roman c'est celui qui est sorti en premier et puis c'est tout et il a effectivement été ignorer comme on ignore généralement la littérature jeunesse, mais à tort, voilà.
Vous continuez. Oh, pardon, allez-y, Abline.
Qu'est-ce que c'est en fait pour un romancier en fait de se retrouver dans le grand bain d'un coup où on se retrouve en rentrée littéraire, je vous pose la question à tous les deux, en face d'un Houellebecq si on n'a pas de chance,
d'Amélie Nothomb si on n'en a pas non plus,
ou même d'une Christine Angot par exemple. Comment on fait en fait pour trouver la bonne posture et la bonne position d'écrivain dans ces cas-là ?
Olivier, et puis après Anne.
Je vais peut-être laisser Anne, qui a plus d'expérience que moi, répondre.
Moi, mon tout premier, comme je disais, de toute façon, je ne me suis pas retrouvée. C'est très bien l'image, finalement, de la piscine. C'est parfait, parce qu'en fait, il y a vraiment grand bain et petit bain. Donc, comme moi, j'ai commencé dans le petit bain, je ne me suis pas retrouvée tout de suite en compétition. Donc, après, je me suis retrouvée dans le grand bain, mais là, j'étais déjà un peu entraînée, vous voyez. Donc, effectivement, dans le grand bain de la littérature générale... J'étais ouais, j'étais loin derrière et je me suis retrouvée effectivement face à ces grands noms. Et ça continue à... Je pense qu'il ne faut pas avoir de, comment dire, de timidité ou de scrupules par rapport à ça. On est face à des auteurs qui sont très médiatisés. C'est surtout ça la grande différence, en fait. Et ce n'est pas une question de qualité d'auteur et de qualité des textes, c'est une question de médiatisation. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You wear ribbons and curls. Ooh, what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went up. And ooh, when we kissed, we could not stop. You broke out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went up. And ooh, when we kissed, we could not stop. You broke out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine.
C'était Dominique Blanc-Francard et Hubert Mounier, In Your 16, extrait de l'album It's a Teenager Dream.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Anne Persin, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que ça change au fur et à mesure du temps à chaque nouveau livre? Est-ce qu'on gagne de l'expérience quand on fait de l'écriture ou est-ce qu'à chaque fois c'est comme la première fois?
Ah non, c'est sûr qu'on gagne de l'expérience et qu'on gagne... Enfin oui, il y a quelque chose qui se perd forcément, une espèce d'émerveillement qu'on a au moment de la première publication, parce que je pense que c'est un moment où on est en train d'exister en tant qu'auteur pour les autres, pas pour soi. Je veux dire que pour soi, que qu'on soit dans le premier roman ou dans le 10e ou dans le 16e, comme c'est mon cas, c'est pour moi-même, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Il y a un savoir-faire, on peut dire ça. Je sais raconter des histoires, mais c'est toujours les mêmes enjeux, c'est toujours aussi merveilleux et difficile à la fois. Par contre, c'est en tant qu'auteur pour les autres, on est reçu, on est reconnu, on est, même si c'est très modeste, je pense qu'il y a ça qui est en jeu, en fait. C'est le regard des autres qui change beaucoup.
Olivier Héron, Anne Persan, on vous reconnaît dans la rue maintenant?
Oui, non, on m'a reconnu un jour à une terrasse d'un café. Mais c'est parce que j'avais participé à l'émission Question pour un champion il y a quelques années. Et une dame m'a demandé, elle était sûre de m'avoir vu quelque part et dont j'ai rencontré une personne très sympathique d'ailleurs, que je salue. Voilà. Encore pour le roman, mais ça viendra sûrement.
Et vous aviez gagné combien, Question pour un champion? Et
j'avais gagné 5 fois l'émission, voilà. Ma grand-mère Josépha, que je salue, était très fière de moi, donc je l'embrasse.
Et vous, une personne, vous reconnaît?
Ah ben non, je pense pas. Si, on me reconnaît dans les rues de la ville où je travaille, parce que je suis enseignante, donc mes élèves me reconnaissent. Non, mais blague à part, je ne pense vraiment pas. Après, dans les salons littéraires, quand il y a des invitations, dans des festivals du livre, ça peut arriver qu'on me reconnaisse. Mais c'est pas... Je pense que ça fait pas d'ailleurs... Enfin, je pense qu'à un écrivain, ça fait pas forcément plaisir d'être reconnu pour soi-même, je veux dire physiquement. Par contre, de rencontrer des lecteurs, je ne sais pas, dans une librairie, ça m'est arrivé, qui parlent de votre livre devant vous sans savoir que c'est vous, Ça, c'est énorme. Ça, c'est merveilleux. Quoi.
Et
c'est...
voir quelqu'un hiéroglyphe... Voir, par exemple, quelqu'un hiéroglyphe dans un train et voir quelqu'un absorbé par la lecture de votre livre, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé?
Oui. J'ai jamais vu de mes yeux. Quelqu'un m'a déjà envoyé une photo dans le métro parce qu'il y avait quelqu'un en train de lire mon livre. Mais moi, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Mais ça m'est arrivé d'entendre parler, effectivement, dans une librairie, d'entendre le libraire discuter d'un de mes livres avec quelqu'un qui l'avait lu et qui ne savait pas que j'étais là. Et voilà, c'est vraiment très, très touchant. Je pense que c'est le plus grosse récompense d'un écrivain. C'est très différent du rapport qu'on peut avoir, vous parliez du corps tout à l'heure, hein, je pense du rapport qu'on peut avoir dans la danse, dans le travail d'un acteur, ça engage le corps, là aussi, sauf que c'est un corps qu'on ne reconnaît pas en fait. Le corps il est dans notre roman et on se fiche un peu d'être reconnu dans la rue ou pas, admiré physiquement ou pas.
La relève. Tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
C'est l'heure de la chronique d'Ablin qui va nous dire aujourd'hui si la littérature c'était ou non mieux avant.
Et oui, puisque nous accueillons des romanciers aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur l'édition. Il est habituel d'entendre les jurés octogénaires de nombreux prix récriminer et cracher leur déception de l'état actuel de l'édition et de la littérature actuelle. Flaubert, Zola, Valéry, même Gary ou Duras, c'était quand même autre chose, ma brave dame. Peut-on entendre rue Saint-Sébastien-Bottin ou chez Drouan? Alors oui, Madame Bovary n'est pas morte. Quand on connaît le profil des acheteurs de livres qui sont à 78% des femmes, on peut effectivement se demander.
Mais c'est une bonne nouvelle. Donc pour vous, aujourd'hui, les femmes lisent davantage. On n'est plus chez Molière. Le petit chat est mort. C'est une excellente nouvelle. Mais est-ce que cela a réussi à renouveler la qualité littéraire?
Alors... oui, il semble que le rayonnement un petit peu international de la France au travers de ses écrivains est un petit peu baissé, même si on a des renouveaux avec le succès outre-Rhin de Houellebecq qui pèse un peu dans la balance. Mais non, l'édition, ce n'était pas mieux avant. Avant, vous n'aviez pas 4000 maisons d'édition en France. Avant, vous n'aviez pas autant de traductions d'auteurs étrangers. Avant, un auteur comme Duras, justement, vendait à peine ses livres jusqu'à ce qu'elle ait le Graal, le Goncourt. Avant, l'auteur préféré des Français, c'était Roger Martin Dugard et non pas Albert Camus. Avant, pour savoir qu'un livre existait, vous étiez obligé d'acheter Le Monde des Livres ou même de lire le magazine littéraire. Maintenant, les livres sont partout, référencés sur le web, discutés publiquement et en communauté. Maintenant, vous pouvez même transporter votre bibliothèque entière, et je sais que la vôtre est énorme, dans un truc plat qui pèse moins de 500 grammes. Maintenant, des auteurs comme Julien Simon ou François Bon, ou même Mercueil, que nous avons reçu ici, explorent de nouvelles façons de faire de la littérature via Internet. Maintenant, l'édition, cela rapporte 2,7 milliards d'euros, soit plus que le jeu vidéo et la musique et le cinéma. Et enfin, avant, il n'y avait pas Virginie Despentes au jury du prix Goncourt. Et rien que pour ça, c'était pas mieux avant.
J'étais la fille de lait, tu étais la fille de joie, demoiselle qui savait y faire. Je ne t'aime pas, je te vomis et j'en suis fière. Toi la chienne à six pieds sous terre, t'as beau gémir, je ne t'aime pas. Dans le palais des filles de lait, on refuse toutes les filles. Les jolies choses faudra t'y faire. Dans ta tombe elle n'existe pas. Ces jolies choses des filles sans voix. Quand on y touche on brûle ses doigts. Elles sont sur toi et t'en rêves. Elles sont devant moi et j'en crève. Dis-moi est-ce que c'est mieux en bas. En bas j'ai retrouvé le père, en bas j'ai retrouvé la mère, on est tous rongés par les vers. Je ne t'aime pas, ta réussite et t'en es fière. Maintenant t'as l'occasion de te taire, tu peux partir, je ne t'aime pas. Dans les tombeaux des filles de joie, on rigole bien des filles.
Donc Cotillard en train de chanter dans Les Jolies Choses, le film éponyme de Virginie Despentes. Virginie Despentes à qui l'on doit la série Vernon Subutex. Et puis j'en profite parce qu'elle est modeste et elle ne dit pas, vous pouvez retrouver Abeline sur le site Chronique de la rentrée littéraire.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Olivier Liron, on revient à vous. Vous aimeriez chanter aussi ? Vous avez parlé de danser, vous aimeriez écrire des chansons ?
J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup.
Vous avez essayé déjà ?
Quelques tentatives, mais j'aimerais beaucoup écrire pour des chanteurs ou des chanteuses. Ouais. Ah ouais, c'est quelque chose qui est fantastique.
Yvonne Persin, vous êtes toujours là ? Allô ?
Oui, je suis toujours là. C'est une tentation. Enfin, comme de même qu'Olivier, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Enfin, j'ai commencé par la poésie, donc il y a une tentation aussi d'écrire. Voilà, il y a une proximité entre la poésie et la chanson, donc c'est quelque chose qui doit être très très intéressant, surtout la rencontre avec un interprète ensuite.
Est-ce qu'on peut dire un petit peu aujourd'hui, vous Anne Persin qui avez commencé avant Olivier Liron, peut-être que vous n'avez pas la même expérience, mais il me semble qu'aujourd'hui les primo-romanciers ont plus de cordes à leur arc et essayent beaucoup plus de choses, ou du moins c'est plus accepté qu'ils essayent d'être dans d'autres milieux, etc. Alors que la France aime plutôt beaucoup les étiquettes et le côté on est romancier, on n'est que romancier.
Moi j'ai moins de cordes à mon arc sans doute qu'Olivier, parce que j'entends qu'il a fait de la danse, qu'il a été acteur, je crois qu'il y a je pense en tout cas, enfin même si ça me concerne pas personnellement, je pense en tout cas qu'on est plus conscient maintenant qu'effectivement tout simplement un écrivain ne peut plus guère se permettre, à moins d'une très forte médiatisation comme je disais tout à l'heure, peut plus guère se permettre de vivre de ça, tout simplement parce que les conditions économiques sont telles que l'auteur n'est pas celui qui bénéficie le plus de l'énorme marché du livre. Là j'ai suivi un peu la chronique à l'instant. C'est effrayant, hein, tout cet argent brassé par l'édition, c'est merveilleux, mais enfin, faut quand même savoir que ça rapporte pas forcément aux auteurs, hein. Donc, on est obligé de faire autre chose aussi à côté. Alors, je pense que le lecteur en est davantage conscient maintenant et qu'on on accepte plus volontiers l'auteur un peu funambule à la Cocteau qui s'essaye à plein de choses.
Cocteau qui est présent dans votre livre d'ailleurs tout au début.
Ah oui.
Le personnage aussi pour une très très jolie citation sur la bêtise. Olivier Liron, vous avez peut-être d'ailleurs un point commun avec Cocteau qui était ami avec Diaghilev, qui était ami avec plein de monde. Vous, votre livre est recommandé par Jean-Baptiste Gendarme, vous le disiez tout à l'heure Olivier. Est-ce que c'est important on a l'impression qu'il y a aujourd'hui aussi des bandes d'écrivains. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à une bande? Est-ce que c'est important d'être justement membre d'une bande?
Je suis ravi que vous parliez de Jean-Baptiste Gendarme et de la revue Décapage, qui est une excellente revue, qui vient de sortir son numéro de rentrée. Et grâce à cette revue, j'ai pu rencontrer, et à Jean-Baptiste, j'ai pu rencontrer ensuite à les éditions Alma, qui ça a été une rencontre magnifique. Comme le disait Anne tout à l'heure, il y a beaucoup d'années d'écriture derrière. Donc, c'est vrai que le premier roman, c'est quelque chose de particulier. En même temps, on publie dans des revues, on écrit des choses et d'autres. Et puis, le fait de rencontrer un éditeur qui publie un roman, c'est quelque chose de très bouleversant. Enfin, c'était une vraie rencontre avec Catherine Argan et Jean-Maurice de Montrémy aux éditions Alma, qui font un travail de découverte, en fait, d'auteurs, de jeunes auteurs, justement, assez extraordinaires et qui, je crois, vraiment permettent de rajeunir cette littérature, comme disait Abeline, de faire entendre de nouvelles voix et pas toujours dans la nostalgie des anciens modèles. C'est une rencontre à chaque fois avec un éditeur.
Cela ne s'applique à aucun de vous deux, mais la citation de Cocteau que j'avais en tête, c'est « Une certaine bêtise est indispensable ». Abeline.
Anne Persin, Anne Persin, Olivier Liron. En fait, moi, je me demandais, on parle toujours beaucoup des romanciers, etc. On parle rarement, en fait, de la relation entre le romancier et l'éditeur. Mm-hmm. Et vu les nouvelles technologies, le fait qu'on puisse publier soi-même, etc., beaucoup d'auteurs commencent à dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de cette relation avec l'éditeur. Moi, j'aimerais que vous me parliez, en fait, tous les deux, de votre relation avec votre éditeur.
Alors,
allez-y, Olivier.
Je viens d'évoquer un peu ça. C'est vrai que c'est une rencontre.
Il vous a aidé à travailler le texte, par
très
exemple.
Très belle rencontre. Le manuscrit était plus ou moins achevé quand même, je crois. Après, il y a un travail de petites choses, mais sur un mode vraiment de très très fécond, enfin qui n'était pas du tout contraignant, voilà, comme ça peut l'être parfois. Là, c'était vraiment un travail d'accompagnement qui était très beau aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer les éditions Alma et j'en suis très heureux.
Yvonne Persin.
Ah oui, tout à fait, mais je pense que moi ça m'émeut toujours quand j'entends des auteurs parler de leur relation avec leurs éditeurs. C'est vraiment quelque chose de particulier. On peut presque, toute proportion gardée, etc. Mais comparer ça avec une sorte de rencontre amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de coup de foudre réciproque qui parfois dure pas du tout. Hein. Moi je suis passée chez plusieurs éditeurs avant d'être aux éditions du Rouergue et voilà, je sais pourquoi, j'y suis très bien. Il y a un travail qui se fait aussi qui est tout en subtilité avec mon éditrice Sylvie Gracia, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. On s'imagine souvent que quand on parle de travail de l'auteur avec l'éditeur, c'est voilà, ils sont tous les deux sur un plancher sur le texte en disant on fait ci, on fait ça. Pas du tout, c'est d'abord on ne travaille pas ensemble, mais successivement, et puis dans le meilleur des cas, à mon avis, c'est justement un travail subtil, c'est-à-dire que l'éditeur parvient à faire comprendre des choses sans être trop intrusif, sans être, je pense que beaucoup d'auteurs ont un rapport quand même particulier avec l'autorité. Être auteur, c'est avoir l'autorité sur son texte. Le mot vient de là. Donc en fait, on déteste que quelqu'un vienne mettre le nez là-dedans. Alors l'éditeur doit en être conscient et les meilleurs éditeurs en sont très conscients. Ils sont très subtils dans leur approche et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 fort.
Merci
Christophe aussi est subtil.
J'essaye. J'arrive pas toujours. Merci Anne. Je rappelle que votre livre s'appelle Sous la vague et qu'il est donc publié à la Bruno Rouergue. Ceux qui vous lisent depuis un certain temps, comme c'est mon cas, voient que vous y développez certains thèmes, comme par exemple celui d'un certain rapport à la nature. Et je voulais juste demander pour finir à Olivier, avant qu'on se quitte, quel thème il souhaiterait développer dans ses prochains romans.
Je pense que j'aimerais aborder la question de la danse, toujours. C'est quelque chose qui m'obsède.
Donc le corps,
Ouais.
Merci Olivier Liron,
merci
Anne Persin d'avoir accepté d'être nos invités.
Vous venez d'écouter La Relève. Au micro, Christophe Bis
et Abeline Majorelle.
À la réalisation aujourd'hui, Rémi, que l'on remercie. Retrouvez-nous sur la page Facebook, La Relève Radio Campus. Vous retrouverez le podcast de l'émission, mais aussi les différents éléments qui la composent. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures.